Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On est là, on est bien, on est reparti pour une magnifique émission en ce jeudi soir. Grande semaine dans Rotten sans flamme, on s'est régalé hier avec le président de l'Olympique de Marseille. Ça tombe bien, on va en parler à partir de 18h de cette interview exclusive hier dans Rotten sans flamme. Et pour en parler, on a une équipe au top comme tous les jours, vous en avez l'habitude, avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Écoute, super, j'ai hâte de débriefer ce qui s'est passé hier, le moment exceptionnel à retrouver en podcast, hein, ouais, sur les applis d'RMC, les plateformes de téléchargement.
Hâte de débriefer avec des gens nouveaux, avec notre dinosaure. Il est sorti, il y en a peut-être deux aujourd'hui, vous allez voir. On est avec Jean-Michel Larqué. Salut Jean-Mi.
Bonsoir messieurs.
Salut
bonsoir.
Jean-Mi.
Ça va Jean-Mi?
Bonsoir. Ça
va? Ça va, tout va bien.
Bon, t'as gagné au golf?
Non, nous avons fait match nul.
Ah, match nul, ok.
Match nul, oui. Oui.
Match nul, ça existe, ça.
Au 18.
Il joue avec des dentistes et des pharmaciens le jeudi matin.
Vous faites combien de coups?
Après,
5, 6
le...
Oh.
Ah, on est avec l'autre dinosaure qui est sorti de sa Corsilo, ouais, au village. C'est Pascal Holmet. Salut Pascal.
Ouais, salut les amis, je ne suis pas au village. Je suis pas au village.
Ah. Ça va?
Au village.
Bah, eh oui, je suis en train de préparer, comme vous le savez, le 27 octobre à Bayonne.
Oui, ah, bah, à Pau? Non, où? À Bayonne.
Le grand match. Non, je ne suis pas encore là-bas, il faut que j'y aille. Mais voilà, c'est très, très, très bien parti pour la...
Excellent.
La vente pour le remplissage du stade. C'est franchement, on est à plus de... Ouais, à peu près 4000 billets vendus pour début septembre.
Bravo.
C'est le 27 octobre. Ouais, tout le monde répond présent là et je reçois un message de suite, Dimitri Payet qui viendra aussi.
Magnifique.
Je suis très très content que, bravo, les amis répondent toujours présents. Bravo.
La légende Jean-Michel Larqué sera là, hein, t'inquiète pas.
Hein. Ouais, mais je compte bien.
Il peut donner le coup d'envoi si tu veux d'ailleurs.
Bah, il peut faire que ça.
Oui, on va pas lui demander de jouer numéro 9, ça, c'est sûr.
Volontiers. Ça va vous les gars?
Bah super, et toi?
Nous on est en grande forme. On a eu ton président Olympique de Marseille,
ah ouais,
hier.
Ah, c'était quelque chose. On va débriefer, ouais, ce passage de Stéphane Richard dans un instant. Ouais. Et j'ai envie de dire que c'est un programme adapté.
J'espère que t'as écouté quand même.
À Pascal Holmeta aujourd'hui. Pascal, il n'y a que des débats pour toi aujourd'hui dans Rotten sans flamme.
Ah, c'est une émission, ouais, sur mesure pour que tu brilles.
À commencer par le procès, parce qu'on va ouvrir le procès des clubs de Ligue 1 qui ne font plus confiance aux gardiens français. 18 clubs en Ligue 1, seulement 4 gardiens français titulaires. Grand procès à 18h30 donc dans Rotten sans flamme. 18h45, un peu de mercato, les conséquences de la fin de mercato à Monaco avec les faux départs de Balogun et Camara. On fera le point avec Maxime Tilliet parce qu'il y aura des conséquences directes. On essaye de faire partir des joueurs vers les championnats exotiques, comme on dit. Et puis à 19h,
exotique, hein.
T'as raison, pas que exotique, la Russie.
Ouais, Golovin, ouais,
il est pas loin. Entre Bercail, pourquoi, ouais, pas. Ah, t'as des infos, GR25. Ah, ça m'intéresse.
C'est des infos ou un souhait qu'il aille en
Russie? Ah oui, ça c'est différent.
Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les deux. Restez bien à l'écoute.
Autre débat pour Pascal Olmeta. Voilà, à 19h. Rotten se chauffe. La prise de position de Jérôme Rotten ce soir. Pour Jérôme, Olivier Létang est l'exemple à suivre pour tous les présidents de Ligue 1. Ce soir, c'est Toulouse-Lille.
C'est une émission humoristique ou quoi?
Pourquoi tu dis ça?
Rassure-moi, parce que si c'est ça, écoute-moi.
Je vais te
traiter de tout.
Non, pas ça.
Je parlais pas de ses qualités footballistiques.
Bah, c'est Redondo quand même.
Je parlais pas de Redondo.
Rendez-vous 19h et il vous expliquera pourquoi il pense ça.
Voilà. C'est pour ça qu'il est président, il est loin du terrain.
Supporter lillois, on vous attend au centre de chaise.
J'ai hâte de voir le salto arrière de Jérôme Rotten.
Ah bah tu vas voir,
salto arrière.
T'inquiète pas.
S'envoler comme une
19h.
Tomber comme une.
Débat autour d'Olivier.
Sinon, je fais un salto arrière, vous me revoyez pas.
Ouais, ça c'est sûr.
Tu vas te planter après.
Ouais, c'est sûr.
Et puis la prime de rentrée, RMC, Jérôme, c'est pas terminé la prime de rentrée. La roue est toujours derrière toi.
Elle est toujours pas tombée.
Et non, toujours pas. Le montant de la cagnotte, 41 625 euros. À laquelle on va ajouter 125, 250, 500, 1000, voire 1500 euros grâce à Jérôme qui fera tourner la roue pendant ce rentaine sans flamme.
On est en train de battre des records sur la roue.
C'est dingue. Au moment de la sonnerie, Jérôme pourra tourner la roue.
Je suis
À l'école.
Ouais, au 12 coups de midi, là, tu sais, avec Jean-Luc Reichmann. Ah ouais. On l'embrasse.
Jean-Luc. On l'embrasse, tout à fait. Jean-Luc. Vous aurez 10 minutes pour envoyer prime par SMS au 732-16. Prime au 732-16. Allez, 18h05 sur RMC. Jérôme, tout de suite. Nos Marseillais ont bien cuisiné le nouveau boss de l'OM hier, écoute.
Bien sûr. Est-ce qu'on va poser les pierres et que ça va être une construction saine ?
On avait une mission, on a des obligations, on a pris des engagements vis-à-vis du régulateur, vis-à-vis aussi de l'actionnaire, naturellement.
I have a question for you.
Why Popovic
Moi, je considère que mon rôle de président, c'est d'être celui qui recherche un équilibre entre les différentes parties prenantes à l'intérieur du club.
Même si la saison est la plus cauchemardesque possible.
On a fait le maximum de ce qu'on pouvait, j'estime, à la fois en fonction du marché, et puis on n'a pas voulu brader non plus les joueurs.
C'est pas par hasard que
Marseille est un club européen. C'est, sur les 10 dernières années, on a été 8 fois dans des compétitions européennes, Champions League ou Europa League.
Ouais, rarement la Champions League.
Avec beaucoup de claques reçues quand même.
Assez rarement.
Fait des bosses sur la tête.
Je pense que le niveau, c'est pas une question de niveau.
Pour revenir en partant de là où on était à la fin de la saison dernière à quelque chose qui se rapproche de l'équilibre, il nous faudra au minimum 2 saisons.
Duga, t'es d'accord ?
Oui, surtout. Ce soir, j'oublie
tout. Le grand oral pour Stéphane Richard dans Rotten sans flamme hier soir. 1h10 d'entretien à retrouver donc en podcast si vous l'avez raté. Le bilan du mercato, l'investissement de l'actionnaire Franck McCourt, les objectifs sportifs de l'OM avec un grand Florent Germain qui a participé et qui est encore avec nous. Salut Flo.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Flo.
Salut capitaine.
Alors Flo, on va se focaliser sur les déclarations concernant le mercato. Il a précisé que l'OM n'a pas atteint ses objectifs, mais l'OM a fait le maximum. Flo.
Voilà, malgré une situation financière quasi catastrophique, c'est ce qu'on a compris quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, en ciblant des gens un peu joueurs qui ont fait des paris payés cher, les Olympiens, en croisant les doigts pour une qualif en Ligue des Champions. Bon, on a compris à qui ce petit tir était adressé. Donc, y a quand même une satisfaction d'avoir baissé la masse salariale d'environ 30-35%, même si tu l'as dit, les objectifs ne sont pas totalement atteints. Franck McCourt est là et reste solide pour combler le déficit. Si je résume, très délicat d'acheter de nouveaux joueurs, mais il ne faut pas non plus imaginer que c'est totalement impossible. Donc on suivra éventuellement l'arrivée d'un joueur libre dans les semaines qui viennent, pourquoi pas. Par contre, pas d'autres départs, sauf je pense un départ à la marge. Il y a un joueur qui était presque en partance pour l'Espagne. On surveillera l'avenir de Derek Cornelius avec pourquoi pas le marché saoudien qui est encore ouvert. Des efforts de certains joueurs, les plus gros salaires concernant le fait d'étaler sur la durée leurs revenus. Et puis un rendez-vous en novembre-décembre justement pour faire le point avec l'ADN CG. Mais la grande satisfaction, on l'a compris hier, écoutez, c'était d'avoir gardé malgré tout un effectif cohérent et surtout Igor Paixão, ça inquiétait Bruno Genesio.
C'est vrai que dans nos échanges quasi quotidiens, parlons tous mercato, et je pense que le fait qu'on ait pu gérer ça ensemble, ça s'est tourné beaucoup autour du cas d'Igor Paixão, c'est vrai, parce que c'est un joueur capital. Il n'a pas menacé démissionner, parce qu'il a ce côté responsable quand même, mais je pense qu'on n'était pas loin du point de rupture. J'ai jeté toutes mes forces dans la bataille, effectivement, pour que on garde Igor.
Et puisque l'un des thèmes du débat, Benoît, c'est de savoir si le plus dur est fait, je rappelle quand même que l'une de ces petites phrases, ça a été de dire qu'il fallait minimum 2 ans quand même pour rétablir la situation, pour rééquilibrer les finances. Donc le plus dur est fait, non, c'est pas sûr.
Voilà, donc c'est tout l'objet du débat. Ce soir, tu restes avec nous, Flo, la une de Rotten sans flamme. On vous attend, supporters marseillais au 32-16. Pascal, Jean-Michel et Jérôme, est-ce que le plus dur est passé pour l'OM, d'après toi, Jérôme ? Avec ce mercato,
je leur souhaite. Moi, je suis pas, j'ai pas la boule de cristal devant moi et je sais pas ce qui va se passer. Tu sais, les saisons de football, quand elles commencent, il y a des objectifs. C'est pour ça qu'on lui a posé la question hier, savoir quelle était l'ambition de l'Olympique de Marseille. Alors, ils sont ambitieux, mais il a pas donné une stratégie très claire.
Il a dit l'Europe du bout des lèvres.
Voilà. Donc l'Europe, comme il dit, c'est de la 7e à la 1ère place. Donc j'imagine. C'est le minimum syndical quand tu es à l'Olympique de Marseille, même avec des problèmes financiers, et on l'a vu, et des gros problèmes financiers qui t'empêchent de recruter, où il faut dégraisser. Donc c'est pas facile. Je dis pas que c'est simple. Mais au moins, hier, on a eu la réponse à toutes les interrogations qu'on se posait. les supporters aussi. Alors après, ça leur plaît pas. C'est comme ça. Au moins, je pense que le président Stéphane Richard, il nous a pas menti de ce côté-là. Donc, il nous a pas menti sur le fait que Mike Courte ne vendait pas le club. Il veut pas vendre, mais il est toujours à la, là pour mettre la main à la poche. S'il faut mettre la main à la poche, il
et
l'a
fait. Et puis, s'il voulait le vendre, il le dirait pas.
En plus.
Ça tombe bien.
Ouais. Ouais. Non, mais moi, écoute, Flo, t'as raison. Mais à l'arrivée, on lui a posé la question. C'est ce qu'il a dit. Donc, on va le croire.
Ah oui, non, mais les questions ont été posées. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que faudra quand même surveiller justement les années à venir, l'engagement de Franck Macron. C'est clair, ça, c'était une question très légitime.
Exactement. Mais c'est pour ça que je dis que dans un premier temps, avec cette interview-là, et pas que, avec ce début de saison, avec ce qui s'est passé sur ce mercato, avec l'arrivée de Genesio et donc des joueurs qui étaient en prêt, qui sont revenus et qui aujourd'hui ont leur jeu, du moins ont une place à prendre, et ils l'ont montré depuis le début, avec de la réussite et moins de réussite sur le match de Monaco. Je pense que en effet, chacun, tous les gens amoureux de l'Olympique de Marseille aujourd'hui se disent, écoute, on a un effectif qui est comme ça, on est déçu, on n'a pas eu de recrues, on voulait voir certains partir, ils sont là, certains revenir, on voulait pas les voir venir, ils sont là, maintenant on va faire avec, et on attend que la prestation contre Strasbourg, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, presque 15 jours, et ben se répète de temps en temps. Et si c'est le cas, je pense que ça va calmer les ardeurs de beaucoup. Parce que ce match contre Strasbourg était inespéré, le résultat au départ, mais même l'attitude et ce qu'ils ont fait. Donc après, on peut dire Strasbourg moyen, Strasbourg ceci, Strasbourg cela.
Et Strasbourg, il y a eu Monaco quand même.
Sauf que oui. Mais c'est pour ça. Ce que je veux te dire, c'est que moi, je préfère faire confiance à Bruno Genesio, aux joueurs revanchards aujourd'hui, pour dire bah écoute, des matchs contre Strasbourg, il y en aura plus que des matchs qu'on a vus contre Monaco. Et si c'est le cas, je pense qu'en effet, pour répondre à ta question, Benoît, ouais, le point noir, le gros point noir, il est passé. Tu vois, maintenant il faut aller de l'avant. Mais le problème, c'est que on ne sait pas comment une saison s'avance. Imagine le mois de septembre, octobre. Parce que moi, je veux bien qu'on dise à chaque fois et qu'on annonce, parce que certains médias et certains consultants ou journalistes te disent ça aujourd'hui. Dire oui, maintenant les gens ont compris qu'à Marseille, il fallait être patient. Non, mais à Marseille, et Flo, je parle sous contrôle de Flo qui vit là-bas. Mais c'est pas possible. Même si tu leur dis, en effet, il y a moins de moyens, il y a moins de ceci. Si en septembre, octobre, les résultats sont pas bons en championnat et les résultats sont pas bon en Europa League, tu vas voir si ça va pas être le feu.
Et surtout, tu regardes le calendrier, Paris FC, Rennes, Beşiktaş et le PSG. Non, donc, mais déjà, ces matchs-là, il va falloir...
Ouais, encore ceux-là, mais je te dis, je vais jusqu'au mois d'octobre.
Bien les négocier.
Et mois d'octobre, en plus, on a... merci à l'UEFA de nous avoir collé, ou la FIFA de nous avoir collé des dates.
Trêve de trois semaines.
Ouais, trois semaines où on va s'emmerder la vie rien voir. Non, mais arrête. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est... T'imagines si ça part mal, je leur souhaite pas encore une fois, mais ouais, si ça se confirme ce qu'on a vu à Monaco, là en effet oui, c'est le gros point noir, il est pas passé encore.
Jean-Michel, est-ce que le plus dur est passé pour toi, pour l'OM?
Bien sûr que non. En général, quand on parle d'objectifs, on parle d'objectifs sportifs, me semble-t-il. Hein.
Bien sûr.
On veut être dans les 5 premiers, dans les 10 premiers, dans la première moitié du... Bon, voilà les objectifs. Alors j'ai entendu un auditeur, et je me tourne vers Flo tout de suite parce qu'il connaît mieux le problème que moi, un auditeur qui était l'invité de Rotten sans flamme, qui disait oui, mais c'est une saison de transition. Mais Flo, il me semble quand même que ça fait quelques saisons qu'on a des saisons de transition, non, à l'Olympique de Marseille?
Je sais pas. Pour moi, l'année dernière, c'était loin d'être une saison de transition.
En début de saison dernière, c'était pas le cas. C'est la
lenteur de Zerbi. Justement, ouais, les supporters sont tombés de haut parce que en bien début sûr d'année, enfin, jour pour jour, il y avait de l'ambition,
il y avait beaucoup d'espoir de venir à la sortie.
C'est un échec, mais c'est pas une année de transition. Voilà. C'était pas vendu comme ça, en tout cas.
Ah oui. Alors, une saison d'échec n'est pas une. Mais il me semble quand même que il y a beaucoup de saisons, et je les trouve extrêmement patients, où l'Olympique de Marseille n'a pas véritablement régalé son public, mais ça, c'était autre chose. Et puis, il y a le discours. Je pense que le président Richard fait tout ce qu'il peut, mais quand il dit « je vais », il y a des joueurs qui vont diminuer leur salaire. C'est, euh, C'est une réalité.
Il a apporté des précisions d'ailleurs là-dessus, Jean-Michel. Il a dit, non,
il a dit qu'il y avait des discussions
avec certains cas.
Il avait eu la parole de certains.
Au gros salaire, ils allaient certainement les prolonger pour lisser le salaire sur une plus longue durée. C'est l'idée.
Alors ça, sur un contrat à temps, lisser un salaire, ça n'existe pas. Hein.
Non, mais ça veut dire.
Si tu prolonges d'un côté, tu fais des concessions de l'autre. Ça, c'est la règle dans un contrat, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve. Moi, je n'y crois pas une seule seconde à ça.
Mais aujourd'hui, comment? Pourquoi tu ne crois pas?
Ah ben, on verra. Il a dit qu'il avait l'accord verbal de certains joueurs.
On prenait l'exemple de la période de Covid, où il avait été proposé à certains joueurs de prolonger leur contrat, mais de diminuer leur salaire pour, au final, retomber sur leurs pattes. Hein, parce que si tu prends l'exemple d'un joueur comme Geoffrey Kondogbia, j'ai pas les détails, mais Geoffrey Kondogbia, il touche un salaire qui est démesuré par rapport au temps de jeu, en plus, qu'il donne, qu'il offre et aux performances. Il est en fin de contrat. Si l'OM lui propose un ou deux ans supplémentaires, mais au final de baisser largement son salaire, lui et ses représentants, je pense, vont faire le calcul en se disant que de toute façon, en sortie d'Olympique de Marseille, il aura forcément un salaire qui sera diminué au moins par 4, par 3 ou par 4 par rapport à ce qu'il touche actuellement. Donc l'OM fait des concessions, parce que honnêtement, je ne suis pas convaincu que Marseille ait envie de prolonger des joueurs qui sportivement n'ont pas
aujourd'hui
été très performants. Mais donc c'est le financier qui prend le dessus sur le sportif, tout simplement.
Mais si l'OM, pour se sortir du guépier, est obligé de prolonger Kondogbia, il va falloir quand même qu'on m'explique, Flo.
C'est un exemple, Kondogbia. On n'a pas les noms, on sait que ça concerne.
Ça concerne les 5-6 gros salaires.
Et puis autre chose, messieurs. Allez, dans une saison, parce qu'avec l'effectif qu'il y a aujourd'hui, il faut prier la bonne mère pour ne pas qu'il y ait 3 ou 4 blessés.
C'est l'autre ou les clubs, ouais, ça,
là,
Jean-Michel.
C'est l'Olympique de Marseille. Un joueur majeur qui craque pour deux mois. Dans chaque ligne.
Avec Kondogbia, c'est sûr que tu en as un déjà.
Mais non, mais rien que Gouiri, s'il se blesse, qui va jouer à sa place?
Mais il y a des joueurs devant.
À qui?
Mopé, Mbombanya.
Ok.
Mbombanya. Oui,
c'est pas une catastrophe si Mopé se blesse.
Et puis la marge de manœuvre.
Et si Thauvin se blesse à Lens? Et si Edouard se blesse à Lens?
Moi, je suis d'accord avec Jérôme là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, on peut prendre, à part le PSG, et Monaco, on va dire, quasiment toutes les équipes de Ligue 1 qui jouent la Coupe d'Europe, s'ils perdent leurs 3 meilleurs joueurs, ils sont moins bons et il y a un problème. Marseille s'est affaibli, mais je pense pas au point de tirer un trait sur des ambitions
européennes.
Monaco Marseille,
il y a deux joueurs qui se blessent et qui s'assoient sur la pelouse. On a vu le visage catastrophé de Bruno Genesio. Vous sentez la panique par rapport à cet effectif qui est beaucoup trop
court. Et puis,
toi, t'étais dans le cerveau de Genesio pour dire Genesio, ça y est en panique. Oh là là, il y a deux blessés. Angel Gomez est blessé, mon Dieu. Oh là là, la saison, elle est morte.
Tu t'es moqué de moi, Jérôme, mais c'est pour ça que j'ai posé la question sur la Ligue Europa. Comment veux-tu affronter deux compétitions
Jérôme,
il n'y a pas plus calme que Bruno Genesio qui a vu son regard. Écoute-moi. Ça en dit long, parce que tu n'as pas deux équipes qui... À Marseille, il ne te faut pas une équipe. Comme on dit, on parle des blessures et si tu joues 3 tableaux, mais si tu n'as pas deux équipes, ok, tu as des joueurs sur le banc, des jeunes, tu peux faire confiance et puis il faut tirer le chapeau à certains. Si en plus, ils parlent de baisser le salaire et de rajouter un an ou deux, déjà, ça, il rentre dans une estime de ses couleurs.
C'est un report de salaire, c'est pas un effort financier.
Non, mais je suis d'accord. Pascal, je suis d'accord avec ta vision des choses. T'es à l'Olympique de Marseille, sauf qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, ils sont dans la mouise financièrement, comme beaucoup de clubs de Ligue 1, beaucoup trop de clubs de Ligue 1. C'est la réalité. Aujourd'hui, l'effectif, il est comme ça. Moi, je suis, et Flo est d'accord avec moi. Il y a un effectif aujourd'hui. Vous pouvez pas dire, maintenant, il va falloir faire confiance à certains jeunes et dire que si Angel Gomez se blesse ou Nadi se blesse ou Gouiri se blesse, c'est dramatique.
On peut toujours être optimiste.
Oui.
Mais honnêtement, ne serait-ce que le cas Genesio, quand le président dit je l'ai rattrapé un petit peu par.
Avec Pacheco,
j'étais pas loin du point de rupture.
Avec Pacheco,
on n'était pas loin. Ouais. Vous pensez que d'ici la fin de sa saison, même d'ici la fin des matchs allés, ça va être un long fleuve tranquille.
Non, mais d'accord.
Et qu'à un moment donné, Genesio va pas lui-même.
Ah, mais Genesio, il savait aussi le.
Pas du tout.
Il savait pas.
C'est pas comme ça que lui a été vendu.
C'est pas comme ça que ça lui a été vendu.
Mais Jean-Michel.
Pas tout à fait, Jérôme. Sois honnête. Il l'a dit lui-même.
Oui.
C'est pas tout à fait le programme qu'on
oui, mais alors, dans ces cas-là, s'il n'est pas content, tu sais ce qu'il a à faire, il s'en va.
Mais il a failli.
Donc il est resté. Donc c'est qu'il accepte la situation aujourd'hui. Donc viens pas te plaindre si au mois d'octobre ou au mois de novembre, ça se passe mal en disant il va pas se plaindre.
Il n'est pas question de se plaindre, Jérôme. Il est juste question de dire écoutez, je mets les pouces et je m'en vais. Il n'est pas obligé de s'ériger en victime en disant ceci, en disant cela, en disant de toute façon je suis incapable d'atteindre les objectifs qui sont fixés pour un grand club comme l'Olympique de Marseille parce que je n'en ai pas les compétences, je ne peux pas le faire avec l'effectif que j'ai, donc je démissionne.
Mais franchement,
il a failli le faire.
Oui, mais d'accord.
Vous pensez que c'est un bon début.
Non, mais Jean-Michel, il a failli le faire, mais il ne l'a pas fait parce que Pacheco est resté.
Il faut le remercier parce qu'il serait parti.
Je ne sais pas s'il faut le remercier. Il a un contrat, il a signé.
Oui,
il a
accepté. Parce que les gars,
il a accepté. Ça va, on ne va pas se mettre à jouer.
Ce n'est pas le genre non plus à claquer la porte, Genesio. Et d'ailleurs, on l'a expliqué cette semaine, il a plutôt dit à sa direction attention, si Pacheco part, vous allez devoir prendre la parole et expliquer aux supporters qu'on a perdu le meilleur joueur et que du coup l'OM ne peut pas être ambitieux. Et je pense que cette réponse a sensibilisé aussi quelque part les dirigeants et je pense que le point de rupture dont qu'il a évoqué, il était là. Il n'y a pas une menace de sa part de dire je me barre.
À un moment donné, la question lui a été posée sur son avenir.
Et après Philippe au 32-7.
Il a dit pour l'instant, je me trompe ou pas, Flo?
Oui, il a dit
pour l'instant, il n'en est pas question.
Donc, il n'en est pas question, il est
toi,
là.
Toi, t'as retenu
donc,
pour l'instant, moi, j'ai retenu, il n'en est pas question.
Il n'en est pas question.
Et
Jean-Michel.
Moi, j'ai retenu les deux.
De toute façon, la sérénité de l'OM est dans vos mains, messieurs. Non,
hein, c'est un c'est
ça qu'il faut prendre. Franchement, de Serbie et Longoria.
Ils attaquent, là. Ils mordent aux chevilles.
Vous allez, comme disait quelqu'un, il faut me les empailler.
Si l'OM a un effectif lambda, traiter l'OM comme un club lambda médiatiquement, ça lui fera du bien.
Aujourd'hui, et juste, c'est pas possible.
Ça marche bien à l'étranger.
Ouais, de Serbie et le Canada, il marche très bien.
C'est autre chose.
Non, mais ils ont trop besoin de nous.
Je sais.
Mais Pascal et Jean-Michel, je vous rassure quand même, quand tu regardes l'effectif aujourd'hui, en effet, là je suis d'accord avec vous, jouer les trois tableaux, c'est pas possible. Tu pourras pas faire voilà. Mais il y a une priorité, c'est le train-train quotidien, c'est le championnat. Et le championnat, en effet, avec cet effectif là, peu importe, je parle pas de l'aspect psychologique mental de l'année dernière, de ce qui s'est passé plus ce mercato qui a été certainement éprouvant pour des joueurs qui devaient partir et à l'arrivée qui sont restés, même les joueurs de retour de prêt qui s'attendaient à repartir et qui sont là et on a besoin d'eux aujourd'hui. Je parle juste qu'en termes d'effectif, quand tu regardes l'équipe et éventuellement aujourd'hui hein, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent se greffer et progresser, mais
des pépites.
Les 18 ou 20 joueurs, mais l'Olympique de Marseille sur le papier est pas inférieur à beaucoup d'équipes,
c'est vrai. Donnez la parole à Philippe.
Les équipes qui sont qualifiées
pour supérieur au Havre, à Angers, à Brest,
Paris, Monaco, Lens, Lille,
Rennes, c'est plus fort.
Rennes, Marseille.
Ouais.
Lyon, voilà, les 7, ils sont là. Voilà.
Donc les autres visent les places européennes. Salut Philippe.
Ouais. Salut monsieur.
Salut Philippe. Ça va Philippe?
C'est une saison de transition.
Bon, alors
ça
qu'est-ce que.
Ça va doucement.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, après l'interview du président Stéphane Richard? Est-ce que. Bon, voilà, le plus gros est passé.
Le plus dur est passé.
Bon, le plus dur est passé, ça, j'en sais rien. De toute façon, on a passé déjà. Ça fait quelques années qu'on en passe quand même des compliqués, hein. Donc on est habitué. Et là, le plus dur, j'en sais rien, parce que financièrement, on n'est encore pas dans les clous. Donc, moi, ce que je crains, c'est aussi des départs sur le mercato d'hiver, parce que autant les effectifs d'aujourd'hui, en effet, comme vous l'avez dit, pour jouer la Ligue 1, on peut accrocher un petit quelque chose. Je pense qu'on n'est pas plus ridicule que Rennes, que Lille, que Monaco. On n'est pas meilleur, mais on sera pas, je pense qu'on peut l'accrocher. Après, ce que vous avez dit aussi, c'est que jouer trois tableaux, ça c'est impossible. Mais là, pour l'instant, le fait d'avoir gardé Aguerd, d'avoir gardé Hochberg, s'il tourne avec.
C'est bien, Philippe, tu mets du gaz là, c'est bien.
Et d'avoir gardé Pachao et puis Guiri. Je pense que pour jouer la Ligue 1, il y a quand même plus dégueulasse, quoi. Donc voilà. Après le plus dur, j'en sais rien. Le plus dur, on verra. Quoi.
On t'attend de voir.
Mais le plus dur, Philippe, c'est simple.
Merci, Philippe.
C'est ce que je disais au tout début. Le plus dur, c'est le plus dur s'il n'y a pas les résultats. Parce qu'à Marseille, ça va prendre feu. Et tout le monde le sait. On sait très bien. Mais c'est pour ça que. Ce qui aurait été bien, mais bon, c'est fait. Ils vont la jouer l'Europa League. Hein. Et en plus, il y a des bons matchs en Europa League.
Attends, il va faire un grand dirigeant de l'équipe.
Mais le mieux, ça aurait été qu'il fasse comme. C'est la Juve qui n'a pas joué de Coupe d'Europe l'année dernière, je crois. C'est ça? Il y a deux ans.
Oui.
L'année dernière ou il y a deux ans. Je crois qu'ils ont eu une année blanche comme ça. Ils se sont remis dans le droit chemin comme ça en jouant que le championnat.
Ouais, bon, est-ce que la situation était la même au départ? Parce que
tu sais, la situation à la Juve d'un moment. Après, attention, tu peux pas comparer. C'est un autre championnat. C'est pas sûr. Les mêmes finances et tout ça.
Mais
ils étaient quand même pas bien quand tu vois les joueurs qu'ils ont recrutés.
Oui, c'est vrai.
Pas digne de.
Philippe, il m'a redonné espoir.
Ah, ben voilà. Merci Philippe. Tu rappelles quand tu veux pour parler de l'OM, comme le disait Pascal.
De toute façon, grand merci à Florent Germain.
Merci.
Flo, c'est tout droit ce week-end.
Tu parlais pas du Milan, peut-être? Non.
Ah, le Milan, ben oui, c'est l'AC Milan de Rabiot qui a pas joué la Coupe d'Europe, tout à fait.
Oui, mais la Juve, il y a deux ans, non? Il y a un an, je sais pas.
Bon, en tout cas, je retiens qu'on a fait la une quasiment toute la semaine Olympique de Marseille, donc
on est bien reparti.
On vous intéresse encore, c'est bien.
On est bien reparti. Seulement
deux jours, notamment avec l'interview du président qui a été excellente.
Bravo les amis.
Bravo. Allez,
bonne soirée à toi, Marseille, Paris FC ce week-end. Ah, Jérôme, la prime de rentrée. Tu vas te lever, faire tourner la roue.
Allez,
le montant de la cagnotte, 41 625 euros. Ça y est, la roue est partie. Et il tourne la roue avec son pied gauche.
C'est incroyable.
125 euros.
Ah, c'est incroyable. Il a fait tomber du 1000, du 1500. On va voir sur quelle case ça va s'arrêter.
Oh là là, 1000 euros, mais c'est dingue!
Mais c'est incroyable!
Mais c'est dingue!
1000 euros en plus dans la cagnotte! Grâce au pied gauche magique de Jérôme Rotten.
La mauvaise langue du dinosaure, il a dit 125 euros.
Dans sa poche, ouais, dans sa poche.
42 625 euros à gagner. 42 625 euros en envoyant prime par SMS au 732-16.
C'est un liquide.
18h27 jusqu'à 18h37. Ah bah oui. C'est net d'impôt, Pascal, hein, c'est important.
Ouais, net d'impôt, au moins la première année. La deuxième année, vous faites attraper par le fisc.
Non, non. 42 625 euros prime par SMS au 732-16. Et dans un instant, le procès des clubs de Ligue 1 qui ne font plus confiance aux gardiens français. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC, on est là, on est bien dans la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme du soir avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Olmeta, avec Benoît Boutron. On va continuer les débats. On est là jusqu'à 20h, vous le savez, comme tous les soirs, dans 10 minutes. Benoît.
Allô Jérôme, Maxime Tilliette, on va reparler du mercato de l'AS Monaco, les conséquences des départs avortés de Balogun et de Camara, parce que vous allez voir que ça bouge pas mal à Monaco, on fera le point avec lui. Et puis à 19h, sacrée prise de position de Jérôme Rotten, Rotten se chauffe. Pour Jérôme, Olivier Létang est l'exemple à suivre pour tous les présidents de Ligue 1, 32-16, pour en débattre avec nous. Toulouse-Lille ce soir, à suivre sur RMC. Il est 18h33. Dans Rotten sans flamme sur RMC, vous avez encore 4 minutes pour envoyer prime par SMS au 732-16 grâce au pied gauche magique de JR25. Le montant de la prime s'élève à 42 625 euros. 42 625 euros à gagner grâce à RMC en envoyant prime par SMS au 732-16. Allez, tout de suite, parlons du poste préféré de Pascal Olmeta.
RMC, Rotten sans flamme.
Être gardien, c'est plus que d'arrêter des ballons. C'est un travail technique. Beaucoup pensent connaître
les
gardiens de but. Qu'est-ce que tu dis, Rotten?
Non, mais je l'ai dit.
Il croyait qu'il y avait une faute d'orthographe sur le papier.
À caguer à la ville. Qu'est-ce qu'il peut comprendre, lui, dans les gardiens?
Elle était bonne, Pascal.
Le procès de Roten sans flamme.
Oui, il avait écrit, il ne faut pas écrire, Pascal, il faut laisser parler tes sentiments, ça c'est sûr.
Ah oui, t'inquiète.
Bon, alors, doit-on craindre une pénurie de gardiens de but français de haut niveau pour notre équipe nationale? On peut se poser la question quand on regarde la Ligue 1, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais sur 18 clubs, on a eu seulement 4 gardiens français titulaires, Lens, Rennes, Toulouse et Le Mans. Plus globalement, le vivier de gardiens candidats au bleu s'est réduit. Il y a évidemment Maignan, Samba, Risser. On peut citer Lucas Chevalier, même s'il est en grande difficulté au PSG. Jean Butès, qui est le gardien de Côme, hein, qui va jouer d'ailleurs la Ligue des Champions. Alphonse Areola, mais derrière, il n'y a pas grand monde. Donc on va ouvrir le procès des clubs de Ligue 1 qui ne font plus confiance aux gardiens français. Et on a deux procureurs. Pascal Olmeta, évidemment. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
L'avocat des clubs de Ligue 1 ce soir, c'est Maître Jérôme Roten. Bonsoir.
Non, Maître
Jean-Michel Larquet, excusez-moi. Ouais. Eh oui, Monsieur Larquet.
Au bout de 4 jours d'émission, il est cramé, lui, déjà.
Bonsoir, Monsieur Larquet.
Il s'est endormi.
Ah, il n'y a pas que moi. Il est où, Jean-Michel, quoi? Ouais.
Ah, mais je vous ai dit.
Arrête de te faire.
Non,
je vous écoute. Je vous écoute. Vous êtes carbo, vous êtes tous carbo là. Bon, vas-y.
Ah, moi j'ai rien dit. Hein,
c'est Julien qui va rendre son verdict au 32-16. Bonsoir Julien.
Salut Julien.
Bonsoir Julien. Bonsoir messieurs.
Bon, sois le bienvenu.
Bonsoir Julien.
Jérôme, tu veux laisser débuter Pascal?
Waouh.
Bon, vas-y Pascal.
Bien sûr.
Alors toi, c'est
essayer de rattraper.
C'est un sacré coup de gueule.
Rattraper le coup après.
Tu en as marre? Tu vois pas assez de gardiens français en Ligue 1?
Ouais, c'est pas d'aujourd'hui. Quand on voit que Fabien Barthez, nouveau dans l'équipe de Zinedine Zidane pour encadrer les gardiens de but, on lui demande de passer un diplôme, autrement il n'aurait pas la place. Bon, ça me... Mais quand tu vois 18 clubs français, on a à peine, quand je dis à peine, c'est parce que je compte même les numéros 2 qui sont étrangers. Ok, si nos gardiens ils sont nuls, si nos Français sont nuls, je suis d'accord, faites venir des étrangers. Mais quand on voit qu'eux sont pardonnés sur des erreurs, des relances au pied, parce que tout le monde, aujourd'hui, même ceux qui ne comprennent rien, oui, il faut qu'il ait les deux pieds, un pour embrayer, un, l'autre pour accélérer. Mais bon, taisez-vous, fermez-la un peu. Et nous, nos jeunes, on ne leur fait pas confiance. Pourquoi? Parce que tous ces clubs qui sont gérés par des fonds, qui font venir que des entraîneurs étrangers avec leur staff, eh ben non, ils font pas confiance à nos gardiens français comme on a eu toutes ces générations avec des mains en or. Aujourd'hui, on a 6, voire 7, je crois, jeunes qui sont et ils jouent à l'étranger. Et pourtant, c'est pas des moindres, c'est des très bons. Mais là, on leur dit, vous les jeunes, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas... Il faut arrêter. On perd tout notre savoir. C'est comme on vit le matin,
oui,
on se lève, on n'a plus le sourire. On va à l'entraînement. Comment?
Vas-y, Pascal, vas-y.
Non, mais ils vont à l'entraînement, ils n'ont même plus le sourire. Aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure, je félicitais certains joueurs qui disent qu'ils peuvent baisser leur salaire. C'est non pas parce qu'ils n'ont pas de club, mais c'est parce qu'ils ont l'amour du maillot. Et les gardiens, c'est pareil. À Marseille, il n'y en a pas un, il y en a deux qui sont étrangers.
C'est Delange et Vermeaux, désormais. Il n'y a pas de gardien en place.
Oui, désormais, jusqu'à maintenant. Et je peux, pour une fois, je peux te prendre tous les gardiens un par un. Même Lucas Chevalier, aujourd'hui, je ne sais même plus s'il a la force de rebondir, parce que presque on fait venir encore deux jeunes étrangers. Bon, mais ce n'est pas grave, j'en ai plein le cul. Ouais, voilà, c'est d'accord. Tout.
Ah non, ça, c'était. Tu n'aurais pas dû tourner la page, là.
Ouais. Ouais. Alors, je tourne rien, parce que c'est le seul moyen de me regarder les fesses. Les gars.
Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça, Jérôme?
Non, mais en gros, il y a un constat qui est, Pascal le disait, et tu l'as dit en intitulé, dire quand il n'y a que 4 gardiens français, ça veut dire une chose, c'est que les clubs ne font plus confiance aux gardiens français, quel que soit. Alors bien sûr, des fois ça peut être un problème générationnel, mais je suis désolé. C'est pas anodin que depuis que je suis né, il y a toujours eu des grands gardiens en France, toujours. J'étais gamin, j'ai idolâtré plusieurs gardiens français, il y en avait plusieurs, et de génération en génération, comme ça, il y en avait plusieurs à chaque fois qui sortaient, parce que la majorité des gardiens en France, qui jouaient au haut niveau, étaient français. D'accord.
Alors mais après, pourquoi, Jérôme?
Non, mais après.
Mais pourquoi? Parce que les coachs des gardiens.
Non, mais parce que. Non, mais moi, parce que.
Étaient français et c'était la bonne école.
Et puis parce que. Et puis parce que il y avait surtout une stratégie dans les clubs où je pense que en effet il y avait une formation qui se mettait en place et puis on faisait confiance un peu plus à la jeunesse et on prenait le temps. Aujourd'hui, en effet, tout est accéléré. Mais moi, il y a quelque chose qui est terrible. Et alors, c'est pas lié qu'à ça, mais les entraîneurs, il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers aujourd'hui en France. Et je dis pas qu'ils méritent pas leur place, hein. Mais il y a beaucoup de clubs qui décident de prendre que des entraîneurs étrangers. C'est le cas très souvent à l'AS Monaco depuis pas mal d'années. Hein. Les Français se font rares à la tête de l'AS Monaco. Très rare au Paris Saint-Germain. À Strasbourg aujourd'hui, c'est le cas. À Toulouse, c'est le cas. Si tu veux, il y a 9 entraîneurs étrangers sur les 18 clubs.
T'as tout compris.
Et ben, écoute, donc eux ont une stratégie différente et en effet, ils font plus confiance à des gardiens étrangers qu'à prendre du temps avec en continuant la formation des jeunes gardiens français. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en effet, on en arrive à un constat qui est terrible, c'est qu'il n'y en a quasiment plus. Et les seuls qui jouent en France, comme par hasard, t'as celui qui manque du Mans, donc lui...
Donc, qui n'est pas candidat au Bleu.
Qui n'est pas candidat. Il y a Rennes, c'est Samba, il est en équipe de France. Risser, c'est à Lens, il est en équipe de France. Et le seul, c'est Reste. Mais Reste est pas loin de l'équipe de France parce que de toute façon, il n'y a pas trop le choix.
Donc
je me dis juste que bon courage à Fabien Barthez pour essayer de faire changer les mentalités des clubs.
Mais tu peux être très efficace, Jean-Michel.
Non, mais vous avez tout dit dans votre plaidoirie. Je ne sais pas si vous êtes contre les joueurs, contre les dirigeants. Pascal, tu as dit on a perdu notre savoir-faire. Pascal, vous avez été une génération de pionniers. Vous avez été éduqués par un tandem. On les a oubliés parce que évidemment on n'a plus les compétences pour arriver à leur cheville, qui s'appelaient Monsieur Pibarot et Banide, qui ont mis en place la formation des gardiens de but en France. Et comme tu l'as dit, on a perdu tout notre savoir. Parce qu'aujourd'hui, si tu mets le pape des formateurs, des gardiens de but à la Fédération française de football, si tu le mets à côté de Pierre Pibarot et de Gérard Banide, Pascal, tu as tout compris. Moi, je crois quand même qu'un élève, il est très nettement meilleur s'il a un très bon instituteur, s'il a de très bons professeurs. On est bien d'accord, Pascal. Et aujourd'hui, ces instituteurs, ces professeurs, il n'y a pas que chez les gardiens de but. Hein. Jérôme, je vais te rappeler. Est-ce qu'on a aujourd'hui un éducateur du niveau de Francisco Filio?
Ah bah Jérôme, est-ce le que... sait, hein, c'était son mentor.
Ah bah oui.
Est-ce qu'on a des joueurs, des professeurs, des enseignants de cette qualité?
Ah bah non.
On a perdu notre savoir.
C'est vrai.
On a perdu notre savoir. Et la raison, c'est pas... Comment?
Jean-Michel, ils y sont tous les dimanches.
Ils t'ont mis où à CAF, toi?
Mais tu ne feras plus appel à eux. C'est fini.
Non, mais les éducateurs... Oui, on l'a perdu, on les a perdus. Donc, je comprends.
J'ai mangé il y a quelques temps en arrière avec Pierrick Heuillard. La discussion qu'on a ce soir, je l'ai eue avec lui, je l'ai eue avec Fabien Barthez, je l'ai eue avec deux autres anciens gardiens de
but. Mais par qui ils ont été éduqués, ceux-là?
C'est que. Par qui? Mais toutes les générations, elles ont été éduquées par des gens à qui tu leur as laissé la porte et tu n'as pas fermé.
Et qui était d'une compétence rare. Les noms que j'ai cités.
C'est la différence dans vos propos. Jean-Michel pointe du doigt un problème de formation et Pascal d'opportunité et de place dans le monde professionnel. Ouais. Julien, qui remporte ce procès? La doublette Olmeta Roten ou Jean-Michel Larquet?
Et Julien, il ne connaît pas les éducateurs que j'ai cités. Voilà, le pauvre. Il a raison d'ailleurs.
J'avoue.
Vas-y, Julien. Jean-Michel,
avec le respect que je te dois, c'est vrai que je ne connais pas bien. Mais honnêtement, on perd même la question de vos plaidoiries, les gars. Je pense que vous êtes tous d'accord sur le sujet. C'est qu'il y a quand même un problème des gardiens aujourd'hui en France. Maintenant, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute des clubs qui recrutent des entraîneurs étrangers ou la faute de la Fédé qui ne sait plus former ses gardiens?
C'est vrai que c'est un peu du 50-50.
C'est dur à trancher. Le constat, après, c'est le même. Hein.
Malheureusement, mais tranche.
Allez, faut trancher.
Allez.
Faut trancher.
Merci.
Alors,
merci.
93, j'avais 13 ans, Marseille, j'aime la chasse, Pascal, voilà,
c'est ça.
Bravo, mon ami, merci.
Victoire de Pascal Lometta et Jérôme Rotten.
Merci.
Sans appel de Julien. Merci, Julien, tu rappelles quand tu veux.
Sans appel,
merci, merci.
18h44, dans un instant, allô, Jérôme. Les conséquences des faux départs en fin de mercato à Monaco avec Maxime Tilliette. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h50 sur RMC, les 10 dernières minutes de la première heure de Rotten sans flamme avec Jean-Michel Larquier, avec Pascal Olmeta et avec Benoît Boutron. Après 19h, on est de retour avec toute l'équipe jusqu'à 20h. On va parler de Redondo, Olivier Létang, l'Olivier Létang, le président du Lille Olympique.
Qui joue club.
L'Olympique,
Et pourquoi tu vas en parler? Qu'est-ce que tu veux dire?
Ah, t'es surpris quand je dis Lille Olympique?
Non, je suis pas surpris. Je connais ta connaissance du foot,
Quand même.
Tu restes une référence, Jérôme.
C'est vrai.
T'en as conscience.
Oui.
Tu éduques tous ceux qui nous écoutent tous les soirs.
J'en ai conscience. De toute façon, tu sais, quand je regarde meilleur passeur de l'histoire sur une année, bam, je vois mon nom, donc forcément.
Vous allez vous baiser encore longtemps.
Évidemment. T'es quand même le meilleur joueur avec des champions.
Et je leur souhaite bon courage à tous les meilleurs passeurs. Là, je leur souhaite aux passeurs, allez-y, accrochez-vous.
Voilà. Est-ce que Jean-Michel ou Pascal ont un record qui tient en Ligue 1 encore aujourd'hui?
Non. Fini ça.
Moi, j'ai un record qui ne sera jamais battu.
Ah, c'est quoi?
Jamais un short sali.
C'est quoi le record?
Le record, c'est le nombre de victoires à domicile lors d'un championnat.
Ah oui, mais c'est collectif.
Oui, tous les matchs, t'as gagné tous les matchs.
Croyais que c'était là, Jo.
Mais c'est encore collectif.
Bah ouais, je reçois un message de Jaco Santini qu'on embrasse
qui me dit
bah oui, mais moi aussi je le laisse record.
Allez, allô, Jérôme, c'est
bien sûr qu'il a les coéquipiers.
RMC, Rotten sans flamme.
Monaco is not fair, Monaco is not right. Everybody.
J'entends que ce que Monaco a fait n'est pas juste, comme si tout le monde du football était juste et gentil et que nous étions les seuls méchants. C'est trop. Mon intention a toujours été de protéger l'AS Monaco. Je ne veux pas de guerre avec Chelsea ni avec Everton.
Allô Jérôme.
Maxime Tilliette nous rejoint. Salut Max.
Salut les amis, bonsoir.
Salut Max.
La fin de mercato complètement folle à Monaco. Les départs avortés de Camara et de Balogun. Les deux cas sont différents parce que Camara voulait rester. Il a failli partir à Chelsea. Balogun voulait partir. Il a eu l'opportunité de signer son contrat de fil à Everton. Mais bon, on sait qu'il y a eu des soucis à la visite médicale et au final, il s'est rétracté. On suivra d'ailleurs les versions finales que vous allez éplucher avec Fabrice Hawkins. Max, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les conséquences de ces deux départs avortés sur l'état financier de l'AS Monaco qui devait vendre et encore vendre d'ici la fin du mercato. Et désormais, ça pose un vrai problème dans l'effectif de Luis Felipe.
Oui, parce que le plan était de garder Camara, même si lui n'était pas contre un départ, et de vendre Balogun, ça c'était clair, puisque Ablin est déjà arrivé pour le remplacer. Alors, tu l'as dit, mais dans la soirée, Everton a eu des doutes sur le genou de Balogun. Chelsea, sachant que Monaco devait vendre, eh bien, a insisté pour avoir Camara. Et l'ASM a ouvert la porte à ce moment-là pour un départ du Sénégalais, jusqu'à ce qu'Everton ait finalement les résultats complémentaires et se dise que c'est OK pour signer Balogun. Mais sauf qu'entre-temps, l'attaquant américain, dernier rebondissement, ne veut plus signer, refroidi par la renégociation et les doutes sur son état de forme. Conséquence, les deux meilleurs joueurs de la saison dernière sont encore là. Et malgré le prêt de Kerrer à l'Ajax, il faut encore dégraisser pour alléger cette fameuse masse salariale. Les deux départs probables à l'heure qu'il est, ce sont la vente à venir d'un jeune talent, Pape Cabral, en direction d'Al Ahly. C'est en très bonne voie, milieu de 19 ans, souvent appelé avec les Bleus et qui a été, enfin avec les Bleus en jeune, et qui a été prolongé au tout début de l'été. Ça va se finaliser pour 10 millions hors bonus et 15% à la revente. C'était pas programmé. Mais ça peut un petit peu sauver les affaires de l'ASM. Et puis d'autres options, et l'idée c'est de faire les deux, c'est que le départ de Golovin, qui pourrait rentrer au pays, notamment on parle du Zénith ou du Spartak Moscou, et ça pourrait rapporter une quinzaine de millions d'euros, et surtout aussi libérer, ce serait un gros point en moins dans la masse salariale. Par contre, ces deux départs, rendraient le milieu de terrain monégasque encore plus léger. Et forcément, derrière, il faudrait se retourner avec un joker. L'idée serait de faire venir le Niçois Hicham Boudaoui.
Mais Max, rassure-moi, ils n'ont pas pris un gros chèque sur la vente du troisième gardien qui est parti.
Il y a Lienard, qui est prêté au Cercle Bruges.
Mon pote.
Ouais. Et voilà, il est parti aussi.
Jérôme, parce que tout à l'heure, tu m'as laissé entendre que tu avais peut-être déjà un feeling et des infos sur la suite de Monaco et Golovin.
Non, mais en fait, la suite de Monaco, c'est très simple. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a des marchés qui sont encore ouverts.
Ouais. Russie,
et qu'il faut rattraper le coût de ces ventes avortées. Donc, ils se sont engagés, le directeur sportif s'est engagé pour auprès du propriétaire du club pour vendre entre 40 et 50 millions. Donc maintenant, ils vont essayer de récupérer un max. Et je pense qu'il a plutôt intérêt à le faire. Parce que même s'il y a des explications, et j'entends ce que dit Max et ce qu'a dit Thiago Scuro hier, il y a des explications. Moi, je pars du principe, je suis assez d'accord avec lui, c'est trop facile, les clubs anglais aujourd'hui, de s'en prendre à l'AS Monaco ou aux joueurs. Ils ont qu'à arrêter de nous chier dessus, ces clubs-là. Ils ont beaucoup d'argent.
Et de vouloir
ils
achètent tout valider au dernier jour.
Oui, voilà. Moi, on me dit à Monaco, et à juste titre, s'ils avaient essayé de négocier le 15 août, certainement qu'il y en aura au moins une des deux qui aurait été acceptée. Donc après c'est comme ça, ils ont pas été classe avec Balogun. Chelsea, écoute, ils voulaient profiter du fait que Enzo Fernandez soit parti
à City pour 140
que ça a capoté aussi avec Manu Koné à la Roma. Donc la roue de secours c'est Camara, même lui Camara. Alors je veux bien moi sa place. Tu passes de Monaco, peut-être qu'il a fait le tour, mais Monaco, il a rien connu, le petit Camara. Monaco, aujourd'hui, il doit profiter de l'AS Monaco pour continuer à être dans la lumière. Mmh. Tout le monde est unanime pour dire que c'est un super joueur.
C'est peut-être le meilleur.
C'est un très bon joueur. Ouais. Mais écoute, si ton club t'as un contrat, mon coco, c'est toujours pareil. Mmh. Et en plus, à ce que je sache. Et puis à ce que je sache, même s'ils ont besoin d'argent, il y a des priorités dans la vente. C'est ce que Thiago Scuro a expliqué. Donc c'est bien que Monaco ait gardé Camara. Alors après, à lui de se remettre, il voulait partir, ok. Écoute, il fera une belle année avec l'AS Monaco, en espérant qu'elle soit bonne en Europa League et dans notre, du moins en Conference League et dans le championnat. Mais il n'y a pas de raison.
Il est dans le groupe pour défier Paris demain.
Jean-Michel, tu voulais réagir toi aussi, Pascal ? Vas-y, Jean-Michel.
Non, mais moi, je voulais savoir, avoir la question. Comment, en quelques heures, ils ont trouvé un remède miracle pour l'état physique de Balogun, là, puisque à 17h, c'est. À 17h, rien n'allait. Je sais pas s'il avait le genou dans la sciure ou la cheville, je sais pas quoi. Et puis, à 23h, tout allait bien. Enfin, il y a effectivement, là, j'ai l'impression quand même que. Parce que sa visite médicale, il l'a passée où, Balogun ? À Monaco ou
à Liverpool. À Liverpool, il était là-bas.
Ah, il était place. Là-bas. Hein.
Ben oui.
Et donc, entre-temps, il a repassé une visite médicale et qui a contredit.
Non, les examens c'est complémentaires.
Top, mais on te signe quand même.
C'est pas top, mais on va te signer. Allez, l'autre, il a dit, il a eu raison.
J'ai du mal à tout comprendre, de la part d'Everton. J'ai du mal quand même. Voilà. Sauf que, une fois de plus, tu l'as dit, Max, celui qui va s'en aller, même s'il est, si c'est, c'est pas un futur joueur de l'équipe de France, c'est le petit Pape Cabral, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. 10 millions, voilà, 19 ans.
Donc encore un vieux de la vieille de 19 ans qui s'en va. Quoi. Bon. Voilà.
Merci Max, on te retrouve demain dans le multiplex de Rotten sans flamme.
Merci Max.
C'est la troisième journée de Ligue 1. Allez, on est en retard.
C'est le grand moment là, c'est le grand moment.
Et oui, dans un instant, le grand moment. Rotten se chauffe, la prise de position de Jérôme Rotten du soir. Pour Jérôme, Olivier Létang est l'exemple à suivre pour tous les présidents Ligue 1. Allez, à tout de suite.
J'attends la prod.
RMC, jusqu'à 20h, Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie ? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.